Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ancora a sinistro, Alex Del Piero. Riesce a guadagnare il pallone Milito. Principe Milito. Poggio è libero per il traversone pericoloso. Mare. Orsi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Évidemment, vous en avez l'habitude, je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Johan et bonjour tout le monde.
Alors Guillaume, aujourd'hui on va revenir sur le match entre le Napoli et le Milan, choc de la 10e journée de Serie A, score final 2-2. Et on a pas mal de choses à évoquer, la première étant... Guillaume, cette semaine, on n'a pas du tout parlé de ce match-là.
Écoute, on l'a évoqué dans le précédent podcast. Tu sais, quand on a débriefé ce Inter-Roma, mais en Italie, forcément, ce qui a cristallisé, on va dire, l'attention médiatique, c'était quand même le retour de Lukaku. Surtout quand on était en semaine européenne. Hein. Donc, il y a eu évidemment les matchs des champions à débriefer le jeudi. Mais ça, qu'à partir de jeudi, il y a eu vraiment une attention médiatique autour du retour de Big Rom à Milan pour être au pôle de l'Inter. Donc, c'est vrai que le Napoli-Milan est passé à, alors, on va pas dire à la trappe, on va dire qu'il a été relégué en second plan entre eux, Johan, quand même, le champion d'Italie 2021-2022 et le champion d'Italie 2022-2023. Donc voilà, on n'a pas eu un énorme focus, on va dire. On avait toujours, évidemment, les pages traditionnelles dans les journaux, mais c'est certain que ce qui est attendu dimanche soir, même fin de journée, 18h, c'était le retour de Lukaku pour s'opposer à l'Inter. C'est pour ça que l'équipier, on précise d'ailleurs, Johan, on l'avait pas fait dans le précédent podcast qu'on a enregistré, il y a eu des prises de main très froides quand même entre Lukaku et l'ancien coéquipier. J'étais assez curieux de voir, voilà, on a vu que c'était frisqué, on va dire, entre Big Rom et ses anciens coéquipiers.
Et finalement, ce Napoli-Milan, c'était quand même deux équipes avec des besoins de points au classement. Deux équipes qui avaient des problématiques différentes avant le match, de manière assez récente, et une sorte de perte de conviction dans le jeu, dans les résultats. Il y avait quand même pas mal de choses qu'on attendait de voir finalement sur ce match-là. Je te propose de commencer par... Le Milan, parce qu'en fait, on va forcément suivre le déroulé du match. C'est-à-dire que Milan a fait la première très grosse impression en première mi-temps et on parlera du Napoli après, puisque la réaction du Napoli a été de qualité. Guillaume, cette première mi-temps, qui voit donc le Milan avec un doublé de Giroud. D'ailleurs, j'ai trouvé un Milan... très en jambes très rapidement avec du pressing, avec beaucoup de ballons récupérés assez haut sur le terrain, descente exploitée. C'est marrant parce qu'à la fin du match, on a parlé des buts à Giroud. Il a dit ouais, je veux plus de centres comme ça, etc. Et je sais pas si tu te souviens, Guillaume, moi quand j'avais débriefé à la radio le Milan Juve, donc c'était le week-end dernier.
La semaine dernière.
Ouais, c'est ça, c'était le week-end dernier. J'avais noté la perte d'identité, c'est pas vraiment ça, mais un peu le grand flou de la deuxième mi-temps côté Milan, où tu sais, il avait sorti Giroud, et en fait, Léao, à partir du moment de la sortie de Giroud, il avait arrosé de centre la surface, mais en fait, il n'y avait plus personne pour les reprendre. Et d'ailleurs, Milan avait terminé ce match avec 2,5 fois plus de centres que la moyenne sur le début de saison du Milan. Donc, il y avait beaucoup plus centré, avec finalement plus de joueurs de surface pour reprendre. Là, hier, un joueur de surface de la qualité de Giroud dans le jeu aérien, des bons centres, ça aide. Mais la première mi-temps, Guillaume, a été vraiment de qualité.
Ouais, mais tu l'as dit, des bons centres. Et c'est vrai que Giroud, quand même, n'a pas beaucoup parce que Milan arrive toujours, arrive au but par la passe. Et c'est vrai que le pauvre Giroud, on sait que sa qualité première, quand même, c'est l'essence, c'est la tête, on l'a vu, sa deuxième hier, comment il se démarque et comment il arrive à l'anglais. Donc, c'est évidemment sa qualité première. Mais tu as dit, première mi-temps, honnêtement, elle était dominée. Alors voilà, de la tête et les épaules. C'est vrai que Naples a une occasion avec Politano, donc qui est assez énorme sur le 1-0. Mais dans le jeu, honnêtement, moi, je l'avais tweeté. C'est vrai que la seule bonne nouvelle pour Naples à la mi-temps, et à juste titre, finalement, c'était qu'il n'y avait que 2-0. Parce que je pense notamment à la frappe de Reiners qui on le voit, Johan, il a quand même du mal dans les derniers mètres. Il a eu beaucoup, beaucoup d'occasions depuis le début de la saison, pardon, et il a du mal, on va dire, à être concret. C'est un joueur de football, on le voit. Il a vraiment une qualité de jeu. Mais c'est vrai qu'on va dire que le fameux sautoporte, donc devant le but, il a beaucoup de mal à marquer. C'est ce qui lui manque un peu. On voit que ça lui pèse, parce que hier, la frappe, qu'il a, c'est comme un penalty sans gardien, ouais, en tout cas à la mettre, et ça aurait fait 3-0, et j'ai du mal à imaginer Naples revenir à 3-3. Donc après, tu me diras ça, on a vu quelques heures plus tard, il est passé de 0-3 à 4-3, oui, entre parenthèses. Mais en tout cas, la première mi-temps, c'est vrai que pour Milan, c'était une première mi-temps dominée, et la seule frustration, c'est de ne pas mener plus. Et Pioli, il a dit après le match, on a un manque quand même on ne concrétise pas assez. Il y a eu ces deux buts-là, mais derrière, tu dois en mettre encore un ou deux. Et c'est un problème qui pèse beaucoup ces dernières semaines à Milan parce que contre le PSG, tu n'as pas beaucoup d'occasions. Mais tu sais, tu as des situations. Tu as des situations de jeu où tu peux faire mieux et tu fais pas bien. On voit qu'aussi, on a un Léao qui est très discuté, Johan, dans l'AS, notamment par Arrigo Sacchi, hein, qui a entamé une espèce de campagne médiatique, on va dire, contre Léo, où il a dit que lui, à l'époque, il ne le ferait même plus jouer. Donc, on a un Léo qui est dans le dur.
Qu'est-ce que tu en penses des performances de Léo ?
Le talent est indiscutable. Là-dessus, on est d'accord, toi et moi, je pense que c'est un joueur qui est talentueux et qui peut être au-dessus de la mêlée. Moi, ce que je lui reproche un peu, c'est de ne pas varier un peu son jeu et d'être pas assez définitif. Toi, c'est ce qui diffère quand même de la catégorie des bons joueurs, grands joueurs aux champions. Quand tu vois le PSG Milan, tu vois Mbappé qui est pas forcément éclatant, mais qui marque et qui est décisif. Léo, j'ai l'impression que tu sais qu'il est reparti à quelques années en arrière, où il déborde beaucoup sur sa ligne. Ça termine toujours par un centre. Et quand tu vois un peu les stats, que ce soit par rapport à Kvara ou par rapport à Mbappé qui est en catégorie au-dessus, t'as un joueur qui est pas si décisif pour le talent qu'il a et pour ce qu'il est capable d'apporter. Et c'est vrai que, par exemple, tu vois, les deux exemples qui me viennent comme ça, on va dire à la volée, je pense à la talonnade contre Newcastle.
Catastrophique.
Voilà, qui tente et qui rate. Et hier, tu sais, cette frappe d'espèce de louche qui tente et qui passe 10 mètres au-dessus. Donc, voilà, et tu peux comprendre un peu Sacchi, alors pas avec autant de véhémence et pas aussi radicalement que lui. Mais par contre, je pense que Léo mériterait à varier son jeu, à jouer sans ballon, à prendre la profondeur. En fait, tu vois, moi, j'étais au Parc des Princes mercredi pour Eurosport. Et tu sais, ce que j'ai remarqué au stade, c'est que Léo décroche beaucoup pour prendre le ballon. Et en fait, il part toujours arrêté. Donc en fait, tu n'as jamais d'appel en profondeur, tu n'as jamais de variante. Et c'est toujours pareil, il prend le ballon, il accélère. Et quand il accélère, c'est très dur de le récupérer là-dessus, c'est évident. Mais le problème, c'est que ses accélérations, ses dribbles et ses centres finissent rarement par un but. Et ça manque pour le Milan parce que je crois que Léo n'a pas marqué depuis, depuis
Sept
plusieurs
matchs.
semaines maintenant. Je crois que c'est 7 matchs. Donc tu vois, c'est pas assez décisif. Quand tu vois, par exemple, de l'autre côté de Milan avec l'Inter, tu as deux joueurs comme Thuram et Lautaro qui pointent à chaque match. À Milan, je trouve que Léo, voilà, est pas assez décisif et ne varie pas assez son jeu. Alors, je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, ce qui m'a frappé au Parc des Princes, vraiment, c'est de voir un joueur qui recule, qui prend le ballon, qui fixe, mais qui fait beaucoup trop ça. Il est très fort dans ce qu'il fait, mais il n'a pas une palette assez variée, tu vois. Et devant le but, bah, je trouve qu'il n'est pas assez décisif, pour le coup.
Ouais, je suis d'accord. En plus, il a cette capacité à varier, il l'a en lui. Et donc, c'est
Bien
dommage
sûr.
de pas le voir bah, finalement exécuter un peu plus cette palette technique qu'il a. Et effectivement, le fait de toujours demander le ballon dans les pieds, ça a une très grande limite. Parce que non seulement il va vite ballon au pied, mais il va aussi très vite sans ballon. Contre certaines équipes, je ne parle pas des équipes qui jouent avec un bus, parce que ça devient très difficile de prendre de l'espace ou de trouver de l'espace, mais il y a plein de matchs ou plein d'oppositions où il aurait pu le faire. Même hier, hein, il aurait pu demander des ballons dans l'espace plutôt que de. Et ensuite, continuer à accélérer, déborder, etc. Mais il le fait trop rarement. Et effectivement, ce talent monocorde manque de variété. Il y a autre chose aussi, c'est la. C'est toujours un débat avec ces joueurs offensifs de talent, hein, et tous les joueurs y sont passés. Hein, tu parlais de Mbappé, il y est passé aussi, mais le manque de contribution défensive. Tu sais ce qu'a dit Calabria mercredi soir, en expliquant que. Alors les termes exacts, je ne les ai plus en tête, mais c'est quelque chose du style on vient. Bon, je vais le dire de manière vulgaire, mais c'est on se casse le cul à Milanello pour ce type de match-là. Ceux qui ne font pas les efforts peuvent rester chez eux. C'était grosso modo ça, hein, si je ne me trompe pas, Guillaume.
Ouais, c'est ça.
J'ai plus les termes exacts, mais bon, ça visait quand même un peu Léao, hein, on va pas se le cacher après son match où, ouais, t'as le sentiment en fait que ce que je disais après le match, moi, c'est que j'ai retrouvé le Léao de son arrivée à Milan. C'est le Léao qui disparaît pendant 60 minutes. Ce qu'il avait réussi à gommer pas mal, je trouve, ces derniers mois où c'était mieux, etc. Je trouve que là, en ce début de saison, on retrouve justement ce Léao-là qui disparaît pendant une trop grande partie du match. Et quand tu as réclamé plus de responsabilités, que tu as réclamé un plus gros contrat, on t'a donné les responsabilités, on t'a donné le contrat. Tu as voulu le numéro 10, on t'a donné le numéro 10 avec toute la symbolique qu'il y a à Milan autour de ce numéro-là. Bon, bah, forcément, le regard des gens va
Bien
changer.
sûr.
On va attendre beaucoup plus de toi.
Et la
Donc,
prolongation de contrat aussi, hein.
ouais, c'est ça,
Ouais, la
le salaire,
prolongée,
la
ça a
prolongation.
été.
Donc, forcément, on attend beaucoup plus de toi. Donc, il faut toi aussi que step up, en fait. Il faut progresser. Il faut pas revenir en arrière, là. Il faut passer un nouveau cap.
Exactement. Et en fait, tu peux pas seulement vivre de fulgurance, Johan. Tu peux pas seulement vivre de. Parce que. Ce qu'il fait sur son couloir, il le fait très bien. Il dribble quasiment tout le temps. Il efface son vis-à-vis. Mais une fois arrivé dans la surface, bah soit le centre arrêté, depuis le début de la saison, il a cette espèce de centre arrêté enroulé. Il manque quasiment tout le temps. Et c'était pas assez pour ce niveau-là. Et surtout quand on connaît le potentiel du joueur. Si le joueur derrière n'était pas talentueux et pas capable de faire ça, personne ne lui demanderait de le faire. Mais on a tellement vu ce Léao leader. Notamment dans la dernière ligne droite, tu sais, du Scudetto, vraiment, il a été décisif à chaque match. Rappelle-toi, par exemple, bah, le Napoli-Milan de l'année dernière, quand Milan gagne 4-0, le premier but de Milan, c'est Léao, et c'est sur une passe de Brahim Diaz, avec Léao qui coupe et qui prend la profondeur et qui arrive par la droite. Et ça, aujourd'hui, Léao ne le fait plus. Il est cantonné à son couloir gauche, et il a beaucoup de mal à sortir de cette zone de confort. Et d'ailleurs, Loane, ce qui est paradoxal, c'est que le couloir gauche, parce qu'on parle de Léao, mais Théo Hernandez, et en dessous depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de semaines. D'ailleurs, dans la Gazzetta aujourd'hui, dans ses notes, il a pris 5, hein, et ça fait bien longtemps qu'il est en dessous. On a passé d'un couloir gauche qui était le point fort à un couloir gauche qui aujourd'hui est le point faible, au point que hier, le Napoli est passé plus à gauche qu'à droite, où Calabria a plutôt fait un bon match sur Barashkelia. Il a plutôt bien muselé, hein, comme souvent lors des Milan-Naples et Naples-Milan. Mais c'est vrai qu'hier, avec Naples, on a vite et je pense d'ailleurs que Rudy Garcia l'a compris, en disant, bah, elle passait par la gauche, déjà parce que, alors Léo a un peu plus défendu hier, mais voilà, c'est pas non plus très fréquent, et on a un Théo Hernandez qui est passé un peu en dessous, hein, pour le coup, et en fait, les leaders, je trouve, à Milan, sont un peu en dessous depuis quelques temps, même Maignan, hein, Johan, hein. Maignan, il est dans une période compliquée depuis quelques matchs. Et côté Milan, pour ajouter, pour finir pour ma part, en tout cas, il y a beaucoup de blessés, Johan. J'ai vu beaucoup de critiques, tu sais, sur le pauvre Pellegrino ou Romero, qui est entré dans la mi-temps, mais c'est des joueurs dans les rotations qui sont troisième, quatrième. Hier, Milan, en défense centrale, a fini avec une défense. Calabria, Tomori, Théo Hernandez dans l'axe et Florenzi à gauche. T'as Kier qui s'est blessé avant le match, t'as Kalou qui s'est blessé pendant, t'as Tcho qui s'est fait expulser la semaine dernière, et tu finis avec Théo Hernandez obligé de repasser dans l'axe parce que Pellegrino est blessé. Et c'est pas une attaque. Le Romero, voilà, est encore un peu léger, mais il remplace Pulisic qui a une contracture à la mi-temps, et il remplace aussi Chukwueze qui est blessé pour un mois. Et en fait, Milan a beaucoup, beaucoup trop blessé, a pas assez de variété. Et c'est vrai que quand tu vois, par exemple, l'équipe qui est première aujourd'hui, qui est l'Inter, où vraiment, tu sais, tu as les rotations, que l'équipe qui est en pleine forme, ça dégage beaucoup de solidité, beaucoup de force. Parce que tu as les rotations aussi. Hier, l'Inter fait rentrer Fratesi, fait rentrer Augusto. À Milan, tu as des blessés quasiment à chaque match. Et forcément, arriver à un moment comme ça du match, à 2-0, alors peut-être que... Pioli aurait peut-être pu changer de système à 2-0, pas faire rentrer Romero, avancer Moussa et faire rentrer Pobega dans l'idée. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de blessés à Milan. Je crois que c'est 12 blessures musculaires, Johan, depuis le début de la saison, 19 blessures en tout. C'est beaucoup. Quand tu aspires à être champion, tu peux pas lutter comme ça. Et au Parc des Princes, mercredi dernier, tu as une équipe en attaque qui n'a pas fait de changement parce que tu n'avais personne pour remplacer le trio Pulisic, Léao, Giroud. Et le pauvre Giroud, il a 37 ans et ça devient compliqué pour lui aussi d'enchaîner les matchs. Il en met deux hier, mais quand t'as pas les rotations, quand t'as pas la profondeur de banc, n'importe ça, c'est très dur, honnêtement, de te maintenir sur la durée. Et d'ailleurs, Johan, et là, je vais te lancer là-dessus. La nervosité aussi, hein. Est-ce que t'as remarqué la nervosité des joueurs qui sont sortis, hein? Léao, énervé, Giroud, Léao, ouais.
Ouais, c'est pas la première fois en plus. Puis même Calabria après le match, c'est nerveux. Enfin, oui, on sent une certaine nervosité. C'est entre la nervosité et la frustration de résultats qui sont moins bons, de buts un peu bêtes encaissés, de buts faciles que tu rates, de la difficulté aussi, je trouve, à se créer des occasions parce qu'on focus beaucoup sur un manque de finition de l'Italie, mais c'était un focus que j'ai fait sur RMC la semaine dernière. Quand on prend tous les chiffres avancés, Milan est très loin du compte, hein, en termes de création d'occasions. Donc, ok, ils en ratent, mais ils en créent aussi beaucoup moins que d'autres équipes en Serie A. Il y a cette espèce de difficulté à se montrer dangereux, à créer des occasions de vraiment de grande qualité. Et on l'a vu, hein, souviens-toi, Guillaume, il y a eu des matchs de championnat où Milan est passé vraiment. En marquant sur sa seule ou une de ses deux occasions. Cette saison, on n'avait pas trop l'habitude de ça. Donc, oui, c'est un élément à suivre parce que il ne faut pas que ça s'installe, cette nervosité. Il ne faut pas que ça devienne récurrent. Il ne faut pas que... tu sais, on en a fait des caisses en Italie sur Kvaratskhelia, sur Politano... Et Osimhen. Voilà. Bon, alors, c'était... Personne n'est arrivé au niveau d'Osimhen, hein, côté Milan. Mais quand même.
C'est la première fois, hein, qu'on a autant de signes de nervosité en si peu de temps. Après, c'est périodique. Hein, la période n'est pas facile. Hein, il y a une défaite contre la Juve, 11 contre 10. Il y a une claque au Parc des Princes. Tu gagnes 2-0 à Naples, tu fais 2-2. Donc, forcément, il y a même Giroud après le match au micro. Hein, voilà, il a dit qu'il acceptait ses décisions, mais qu'il a du mal. Léao a demandé des explications aussi à Pioli. Forcément, quand la période n'est pas bonne, t'as une nervosité qui s'installe et tu la ressens même, voilà, même au niveau du jeu. Tu disais, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est vrai que Milan est une équipe qui joue, parce que Pioli a dit, c'est une équipe qui est construite pour ça, mais c'est une équipe aussi qui a toujours les mêmes lacunes. Dans les derbies, c'est pas anodin si à chaque fois c'est les mêmes buts que Milan prend. Contre le PSG, c'est encore pareil. Tu as toujours une distance entre les blocs. Tu as une volonté d'attaquer, mais tu fais toujours percer en contre parce que tu as des distances qui ne sont pas bonnes. Donc, voilà, il y a. Voilà, forcément, Milan, Johan, on en parlait, et c'est pas fini, hein, d'un candidat pour le titre. Et c'est toujours le cas. On peut rappeler aussi que Milan a un calendrier compliqué, hein, depuis le début de la saison. Ils ont joué quasiment tous les gros, sauf l'Atalanta et la Fiorentina. Mais, si on devait faire un peu un bilan comme ça après la reprise de la trêve, c'est certain que on n'a pas la même sensation en regardant l'Inter qui est au complet en plus et qui n'a pas du tout de blessé et qui vraiment une espèce, tu sais, de rouleau compresseur pour le coup, qui n'y a pas de, on va dire, il y a rien qui se met dans cette mécanique, parce que en plus, t'as les rotations derrière et c'est vrai que Milan, on sent bien que c'est un peu boiteux en ce moment. T'as eu les rouges de Maignan, Johan contre le Genoa, le rouge de Tomori contre la Roma, le rouge de Cho contre la Juve. Ouais, t'as plein de signes qui font que les rouges, les blessés, la nervosité, les résultats qui patinent. Là, t'as deux matchs contre l'Udinese et Lecce qui devraient permettre quand même de reprendre, on va dire, un trend plus positif. Parce que si tu commences aussi, on va dire, à freiner contre des équipes, on va dire, moins réputées et un peu plus faibles que Naples, que la Juve, que d'autres. Ben voilà, ça pourrait être plus compliqué, surtout quand il y a des champions. Mon cher Johan, il n'y aura plus le choix maintenant, hein, parce que tu as 2 points. Tu reçois le PSG, tu reçois Dortmund. Si tu veux passer le groupe, on va dire, de la mort, il va falloir gagner contre Paris mardi prochain, pardon.
Exactement. C'est pas un début de saison forcément parfait du Milan, loin de là. Guillaume, on passe au Napoli.
Ouais.
Après une première mi-temps catastrophique, qui correspond avec la très belle première mi-temps du
Bronca, hein, d'ailleurs, du Milan. Bronca à la mi-temps.
Énorme Bronca.
Énorme,
ouais.
Énorme.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et bah, la deuxième mi-temps a été, je trouve, digne de la saison passée en termes de jeu, d'occasion créée, de pression, de pressing, de qualité de joueurs qui parviennent à se montrer performants, décisifs. Cette volonté d'aller marquer un but sur chaque action, je l'avais très peu vu cette saison au Napoli à ce point-là. Et puis aussi un côté orgueil, hein, parce que quand t'es mené 2-0 et que t'es passé pas loin du 0-3, t'as tous les éléments avec la bronca pour finalement t'enfoncer dans cette espèce de crise et tu sors la tête de l'eau.
Oui, et honnêtement, c'était quand même pas attendu à la mi-temps, hein, parce que tellement la première avait été compliquée pour la première. Rudy Garcia fait quand même des bons changements, pour le coup, il a quand même changé le cours du match en changeant de système.
Ouais.
Et j'ai vu aussi là, quand même un Politano qui a pris un peu son équipe sur le dos. Hein. D'ailleurs, je crois que c'était le joueur le mieux doté de la Gazzetta ce lundi.
Et on peut faire un petit focus, Guillaume, sur Politano.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On peut toujours, Johan, dis-moi.
Ben moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
Ben écoute, tu fais bien parce que moi je l'aime bien aussi. Et depuis l'époque de Sassuolo, vraiment, c'est un joueur qui, ben tu vois, qui excelle pas, qui fait pas beaucoup de bruit, qui fait son travail côté droit. Mais moi, c'est un joueur, voilà, que j'aime beaucoup. Et puis, alors, je dois t'avouer que j'ai trouvé une affection un peu pour les pieds gauches. Mais c'est vrai que pour l'Italie, cette capacité quand même à percuter. Et d'ailleurs, il traverse quand même les saisons avec Naples comme un titulaire. Hein. Mmh. Les joueurs arrivent, partent, mais les entraîneurs aussi changent. Mais Politano reste un titulaire, Johan.
Et puis,
alors, quasiment indiscutable. Hein.
Lozano, 40 millions recrutés. Celui qui part, c'est Lozano. C'est pas.
C'est vrai.
Pas Politano. Hein. Donc, non, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il a. Déjà, c'est un joueur qui travaille beaucoup offensivement et défensivement. Ça fait partie de ces ailiers qui aident beaucoup leur défenseur. C'est un peu une mobilette. Il a des pas très courts et une grosse accélération. Il a ce déhanché crochet pour se mettre sur son pied gauche qui est assez redoutable. On sait qu'il va le faire, mais ça marche quand même assez régulièrement. Sa plus grande limite, finalement, c'est ses blessures. C'est un joueur qui est assez fragile, qui difficilement passe une saison sans blessure. Mais c'est vraiment un joueur, oui, qui est. La description que tu en as faite, c'est. Pour résumer, c'est un peu sous-coté, en fait.
Ouais.
On en parle très peu, mais tu vois. Aujourd'hui, est-ce qu'on est certain que Berardi est bien supérieur à Politano?
Ouais, c'est vrai qu'il pourrait il pourrait y
Et
avoir
moi,
débat.
j'ai un peu de mal avec le fait qu'il ne soit pas appelé tout le temps en sélection italienne.
Tu sais que Politano, Johan, c'est 10 matchs de Serie A cette saison, 5 buts et 3 passes D. Hein.
Ouais, mais même,
Déjà.
enfin,
Hein.
mais même au-delà même de juste de cette saison, et tu as raison de le rappeler, mais même les saisons précédentes, moi, il me plaît ce joueur. Parce qu'il apporte beaucoup de dynamisme, en fait. Il apporte du dynamisme offensif, défensif. Je comprends que les entraîneurs l'apprécient parce que c'est quelqu'un qui t'apporte dans les deux phases. Et on a parlé de joueurs qui avaient été critiqués pour leur manque d'implication défensive. Lui, on ne peut pas lui faire ce reproche-là. Donc c'est forcément un joueur d'équipe qui est apprécié. Après, il y a peut-être des limites caractérielles qu'on connaît moins. Mais moi, oui, j'ai du mal à ne pas voir Politano à chaque fois dans la sélection italienne. Il y est
Ouais,
parfois, mais.
sur les limites caractérielles, j'ai un souvenir avec son agent qui parlait, c'est qu'il y a quand même peut-être un peu plus de temps de jeu, peut-être qu'il y a aussi une volonté derrière, tu vois, de bah, justement d'être pas assez reconnu, comme tu le disais, parce qu'il a 30 ans quand même, hein, Politano. Donc, sa carrière défile, et c'est vrai qu'on a trop de tendance parfois à l'oublier. Mais pour revenir au match, ce que j'ai bien aimé avec Politano, c'est que tu sais, ça a été un peu le moteur de la révolution napolitaine en deuxième mi-temps. C'est lui qui prend le ballon, qui fixe, qui efface deux joueurs et qui marque avec bah voilà, une frappe très forte, très puissante au bord de Maignan. Et c'est lui vraiment qui a mené cette révolte-là, qui harangue le public ensuite. Donc, il a aussi ce rôle de leader dans ce Naples bah, qui patine toujours un peu. Voilà, on l'a vu. Alors, c'est vrai, ils ont battu Vérone, ils ont battu Union Berlin, mais on peut pas se contenter de ça à Naples. Contre Berlin, ça va être compliqué. Donc, et après la première mi-temps d'hier, tu pouvais pas mettre au fond du trou en te disant bah c'est pas notre soirée. Et non, Politano revient des vestiaires, il prend son équipe sur ses épaules, il la guide, il l'amène, il marque. Et après c'est là qu'est partie la révolte. Donc et son Osimhen, on le rappelle, qui était blessé. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai eu des bribes de l'ancien Naples de la saison dernière. Voilà, est-ce que le 4-2-3-1 proposé par Rudi Garcia en deuxième mi-temps, le 4-3-3 peut être une solution, on va dire, à court et moyen terme? Peut-être. D'ailleurs, Rudi Garcia l'a dit après le match, hein. Il a dit qu'il n'y a pas le 4-3-3 qui existe, hein. On peut jouer aussi avec d'autres systèmes. Donc, est-ce que c'est peut-être le début d'une petite révolution tactique à Naples? Mais en tout cas, j'ai bien aimé la révolution globale quand même en deuxième mi-temps. Et en toute fin de match, d'ailleurs, la dernière occasion, Johan, elle est pour Barachelia, hein. Naples était pas loin quand même du hold-up là en contre-dit. Donc,
Ah ouais, c'est ça.
ouais, donc vraiment, tu as eu un désastre pendant 45 minutes et le caractère pour réagir, ce qui était quand même pas prévisible à la mi-temps.
Exactement, ce changement de tactique a été décisif hein, de mettre Raspadori derrière un attaquant, Simeone. Entre parenthèses, vraiment, je trouve que Raspadori, là où il. Je ne peux pas dire là où il est le plus décisif parce qu'il faudrait prendre tous les chiffres en fonction de là où il a joué, mais là où moi où je trouve que ses qualités sont les mieux exploitées, on va le dire comme ça, c'est vraiment derrière l'attaquant. Parce que c'est un joueur de petits espaces, c'est un joueur qui peut jouer dos au but, se retourner facilement. Il a les deux pieds, donc il est très imprévisible, notamment pour se retourner. C'est quelqu'un qui maîtrise les feintes, les crochets, les frappes, qui a une bonne frappe de balle, qui peut aussi faire des passes verticales de qualité. Alors c'est marrant parce que je crois que c'est Ciro Ferrara qui a posé la question à Garcia hier au micro de DAZN et Ferrara disait moi c'est là qui me plaît le plus etc. et il disait même à Garcia bah désolé Mister mais moi quand je le vois à droite bon en gros il me plaît pas quoi et Garcia lui avait dit vous verrez le temps me donnera raison il peut jouer aussi à droite il peut jouer à gauche à droite derrière l'attaquant en numéro 9 c'est un joueur total etc. Mais et moi c'est vrai que c'est vraiment derrière un attaquant que je trouve que ses qualités sont les mieux exploitées entre guillemets Guillaume je voulais qu'on parle d'un dernier deux petits thèmes très rapides un très rapide en tout cas Rachmani depuis son retour de blessure. On en parle, c'est compliqué. Hein, heureusement que Nathan a vite pris les contrôles de la défense parce que Rachmani, depuis son retour de blessure, c'est très compliqué. Et la question est-ce que c'est si compliqué? Est-ce que c'est autant compliqué parce qu'il vient de blessure, parce que ça peut être des limites structurelles et il a fait une saison incroyable la saison passée, mais peut-être que c'était trop par rapport à son niveau réel. Et l'autre question étant, est-ce qu'il peut perdre sa place au profit de Léo Stigard, qui lui, par contre, depuis le début de la saison, est plutôt bon.
Oui, il est bien rentré d'ailleurs, Stigard. Ouais. Très, très bien rentré. Et... oui, c'est vrai que Slimani, écoute, il était essentiel dans le Napoli de Spalletti. Alors après, est-ce qu'il a surperformé ou est-ce que vraiment il était... parfaitement inclus dans la mécanique huilée de la saison dernière où vraiment tout réussit à Naples. Peut-être que là, c'est un peu plus normalisé et c'est vrai que le marquage sur Giroud, les mouvements, on voit des ressorts qui est plus en confiance, qui est plus sûr. La question, tu l'as dit, c'est est-ce que sa blessure, voilà, elle fait aussi, ça a un peu coupé dans son élan, mais c'est une période compliquée pour lui, hein, et en feuilletant un peu les notes des journaux avant le match. Quasiment le pire joueur côté napolitain partout. Dans la Gazzetta, c'est un 4,5, je crois. Oui, c'est un joueur qui est en grande difficulté, surtout au Stigard. Il a apporté ce côté un peu caractériel aussi. Ce côté agressif sur l'homme, le côté attentif. Et c'est vrai que Ramani, est-ce que aussi, tu vois, il est pas tombé un peu dans une espèce de confort à Naples. Voilà. Le fait que, voilà, hier, il a complètement passé à côté. Et le fait que Stigard soit rentré à la mi-temps en étant très bon. C'est une question qui va se poser à Naples, c'est vrai, sur le côté qui doit jouer avec Nathan, parce que bon, a priori, Nathan, aujourd'hui, reste un titulaire. Juan Rezou, c'est pas là, mais Nathan, pour l'instant, bon, hier, il prend rouge, mais en tout cas, je le trouve assez, plutôt pas mal, Johan, depuis quand même qu'il est aligné par Rudy Garcia, du moins assez surprenant. Mais en tout cas, oui, il pourrait y avoir quand même une question qui sera ramenée, qui pourrait se poser dans les prochaines semaines, surtout au vu de sa fragilité. C'est ce côté fragile et la faiblesse qu'il dégage qui, je trouve, inquiète un peu. Alors, est-ce que aussi c'est dû au bloc, voilà, qui est plus aussi compact que la semaine dernière? Est-ce que voilà, il pâtit aussi un peu du changement de coach, de la différente manière de jouer? C'est possible. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on a un défenseur qui est vraiment l'ombre de lui-même par rapport à la semaine dernière. Ça, c'est évident.
Dernier sujet, Guillaume. Selon toi, qui sera le plus content après ce match, Pioli ou Garcia?
Moi, comme ça, je dirais Garcia. Non?
Je suis assez d'accord.
Je pense
et pas
Garcia,
seulement par
alors...
le fait que tu as été remonté de 0-2 à 2-2. Plus sur le contenu et le contexte du moment et ce que peut amener ce match nul.
Puis sur la réponse qu'il a eue sur nos habitants, hein, la réponse au changement de ses entrants qui ont été bons. Non, parce que Johan, on va pas se mentir, si Rudy Garcia avait perdu hier, imagine la deuxième mi-temps, la même phénomène que la première, ça aurait été compliqué ensuite pour défendre ça après. Alors certes, tu vois, on m'a posé la question hier soir sur RTL en me disant, mais est-ce qu'aujourd'hui l'histoire d'amour a démarré entre Rudy Garcia et Naples? Honnêtement, on ne peut pas dire que c'est le cas. Moi, j'ai parlé, tu vois, d'un entraîneur sous tutelle quand même. Parce qu'on a un De Laurentiis qui s'est rapproché de son entraîneur et du groupe, qui est plus présent à Castelvolturno au quotidien, pour qui s'implique en première personne pour superviser un peu le travail de son coach. Parce que si comptait avec lui, Johan Rodriguez ne serait plus là. C'est quelque chose quand même, voilà, tout le monde est au courant, malgré les démentis du président. Mais en tout cas, hier, voilà, il a eu des réponses à sa réaction et à sa lecture du match qui est bonne. Contrairement à celle de Pioli, pour le coup, où on peut lui reprocher d'avoir mal eu le match et d'avoir mal géré peut-être ses changements aussi à la mi-temps. Alors, même si c'est obligatoire pour Pulisic, il aurait peut-être pu faire un autre changement, un changement de système pour défendre justement ce 2-0 plutôt que de faire du poste pour poste. Mais Rudy Garcia, pour le coup, a eu des bonnes réponses et sauf quand même un petit bol d'air. Parce que si tu perds hier, tu repars dans une espèce de négativité à Naples en disant, il n'y a pas eu photo, Milan a dominé, après, ça aurait fait un retard colossal aussi sur l'Inter première. Donc, moi, personnellement, je pense que voilà, il sort, on va dire, du crédit, un bol d'air. Mais pour moi, ça reste quand même un entraîneur sous tutelle et qui est, j'ai l'impression, il passe comme un examen à chaque match, tu sais. On voit bien qu'il y a une espèce de couperet à chaque fois, une espèce d'épée de Damoclès qui peut tomber à tout moment. Alors, je ne dis pas que s'il avait perdu hier, il aurait été viré, ça n'aurait pas été le cas. Mais on sent quand même qu'il y a une espèce de, oui, d'épée de Damoclès au-dessus de Rudy Garcia.
Et c'est quand même pas très confortable pour bosser non plus.
Ah bah, je ne sais pas Même toi, aujourd'hui, si je te pose la question, est-ce que Rudy Garcia finira la saison à Naples? Je ne sais pas si tu peux me répondre. C'est plus
Non,
compliqué
mais
de le
tout comme,
dire.
est-ce que tu es certain que Mourinho finira la saison à la Roma?
Oui, exactement. Mais j'ai plus de garantie que enfin, j'ai plus de certitude que Mourinho finira à la Roma que Rudy Garcia à Naples, tu vois.
C'est
Sauf
possible.
si Mourinho vraiment décide de claquer la porte, tu vois. Mais c'est vrai que Rudy Garcia, on sent qu'il y a quand même la trêve qu'il a vécue pour le coup a été assez dure pour lui, hein. Même moralement parlant, il a dit, il a parlé de manque de respect, hein, après la trêve, où il s'est senti attaqué par les médias, où il y a eu beaucoup de noms qui ont été faits, où clairement le scénario Conte pour le remplacer était présent, et que seul son refus a fait qu'il n'est pas aujourd'hui sur le banc de Naples. Donc voilà, on a un entraîneur pour moi qui est sous tutelle et qui hier s'est sauvé et qui s'est offert un petit bol d'air et un peu de crédit. Mais voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel examen et je pense qu'un nouveau bilan sera fait à la prochaine trêve. Alors, je ne sais pas si tu as un avis, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je le perçois, en tout
Ouais,
cas.
je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà qui boucle, Guillaume, ce débrief de Napoli-Milan. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site Calcio et Pepe, c'est calcioepepe.fr. Vous allez dans l'onglet blog et il y aura bientôt des petits articles de temps en temps qu'on fera pour compléter un peu ce qu'on peut dire en podcast. N'oubliez pas de nous suivre également sur Twitter, le compte Calcio et Pepe Pod, je crois, de mémoire.
Oui. Puis on a bien noté Johan les questions, hein, on les a, hein,
Oui,
on a
on
noté les
les a, ça va
questions.
être fait. N'hésitez pas à en rajouter encore, hein, si vous voulez, des questions. On va le faire très prochainement, cet épisode où on va répondre un peu à toutes vos interrogations et vos sujets choisis sur le championnat italien. Et puis nous, Guillaume, on se dit à
Non,
très
on les
vite.
a. Ouais. Oui, exactement. Non, je veux dire que j'avais. Alors, parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup, Johan, pour le coup, même en message sur Twitter. Donc. Même si je vous ai pas répondu, donc j'en suis désolé, mais j'ai bien répertorié, j'ai bien lu. Donc, comme l'a dit Johan, si vous en avez d'autres sur les matchs du week-end, sur les matchs à venir, sur les matchs de Ligue des Champions, sur des interrogations, sur des sujets, n'hésitez pas. Notre messagerie sont ouvertes. Il y a notre site Johan qui est tout neuf, tout propre.
Ouais.
Et partagez, parlez-en, les notes, les étoiles, Johan. Parlez de nous, mais en tout cas, voilà, nous, on revient quand même en force cette saison parce que on a aussi notre vie à côté, Johan. Hein, donc,
Bah bien sûr.
on essaye d'allier notre métier, notre vie sociale, parce qu'on a aussi une vie sociale quand même au-delà de la Serie A, même si c'est pas parfois évident de le
C'est pas toujours
discerner.
facile, ouais.
Mais voilà, en tout cas, dès qu'on est dedans, voilà, on fait ce podcast pour vous, avec vous. Donc voilà, on va continuer à en faire. N'hésitez pas, voilà, à parler de nous et à continuer à nous donner de la force à travers des commentaires, à travers vos 5 étoiles et à travers vos écoutes qui sont toujours de plus en plus nombreuses, Johan.
Exactement, je n'aurais pas dit mieux. Donc merci beaucoup Guillaume pour ce laïus essentiel. Et nous, on se dit donc à très vite, Guillaume, pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé. Ciao, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.